Dress Code 31, l'émission qui vous dévoile les origines des incontournables de votre dressing.
Jeans, perfecto, Ray-Ban, escarpins, bikini, salopette, robe de mariée, smoking.
Eh bien, bonjour à tous.
Bonjour à tous.
Donc aujourd'hui, eh bien, c'est après 15 émissions à consacrer aux indémodables de nos vestiaires, eh bien, nous vous présentons la 16e et dernière émission de Dress Code 31. Et oui, donc c'est la der. Et donc, pour passer plus confortablement les mois d'été, eh bien, nous allons vous dévoiler la panoplie parfaite du vacancier éclairé. Donc, à savoir bien les lunettes de soleil, les Ray-Ban hein, de préférence. Et puis, il faut un chapeau, bien sûr, hein, pour se protéger la tête du soleil. Donc là, bien sûr, on va voir le Panama. Et pour arpenter les planches de Deauville ou flâner sur la croisette, eh bien, il nous faudra une bonne paire d'espadrilles. Voilà. Et eh bien, on va tout d'abord commencer en musique avec la chanson de Jacques Dutronc qui s'appelle « Les Playboys ». Alors Jacques Dutronc, hein, on le voit quand même très souvent justement avec des lunettes de soleil. C'est des Ray-Ban hein, qu'il a aussi, hein, Jacques Dutronc, hein, c'est ça?
Ben, je crois, je l'affirme voilà. Pas, mais sûrement.
Il y a les playboys de profession habillés par Cardin et chaussés par Carville. Qui roulent en Ferrari à la place comme à la ville, qui vont chez Cartier comme ils vont chez Fauchon.
Croyez-vous que je sois jaloux? Pas du tout, pas du tout.
Moi, j'ai un piège à fille. Un piège tabou, un joujou extra qui fait craque-boum-hu. Les filles en tombent à mes genoux. J'ai pas peur des petits minets qui mangent leur ronron au drugstore. Ils travaillent tout comme les castors, ni avec leurs mains, ni avec leurs pieds.
Croyez-vous que je sois jaloux? Pas du tout, pas du tout.
Moi, j'ai un piège à fille, un piège tabou, un joujou extra qui fait craque-boum-hu. Les filles en tombent à mes genoux. Je ne crains pas les costauds, les supermen, les bébés aux carrures d'athlètes. Aux yeux d'acier, au sourire coquet en Harley Davidson, il se promène.
Croyez-vous que je sois jaloux? Pas du tout, pas du tout.
Moi, j'ai un piège à fille, un piège tabou, un joujou extra qui fait craque-boum-hu. Les filles en tombent à mes genoux. Il y a les drogués, les fous d'usant, ceux qui lisent et ceux qui savent parler. Aux mannequins de chez Catherine Harley, ceux qui se marient à la Madeleine.
Croyez-vous que je sois jaloux? Pas du tout, pas du tout.
Moi, j'ai un piège à fille. Un piège tabou, un joujou extra qui fait craque-boum-hu. Les filles en tombent à mes genoux, je recommence, il fait craque-boum-hu. Craque-boum-hu, craque-boum-hu, craque-boum-hu.
Encore.
Alors, si toutes les modeuses connaissent aujourd'hui la marque Ray-Ban, peu sont familières avec son histoire. Pourtant, la prestigieuse marque a vu le jour il y a de cela très longtemps, puisque ses origines remontent à 1853, lorsque les opticiens Bausch et Lomb montent leur société de recherche et d'ophtalmologie. Leur but, créer des verres solaires pour fabriquer les premières lunettes de soleil. En 1927, au retour de sa traversée de l'Atlantique en ballon, le lieutenant John A. McCready leur demande de concevoir des lunettes protectrices panoramiques enveloppantes. 3 ans plus tard, le groupe met au point les verres RB3 qui permet de filtrer les ultraviolets et les infrarouges. L'US Air Force commande en 1933 un modèle pour ses pilotes de chasse qui prend le nom d'Aviator à sa commercialisation. En 1936, la marque Ray-Ban, littéralement exclusion des rayons de soleil, est lancée en 1937. Aussitôt adoptée par l'armée américaine à l'image du général MacArthur et par ses vedettes de cinéma. Une deuxième version est créée à la demande des pilotes durant la Seconde Guerre mondiale avec l'instauration des verres à teinte progressive. Une bande supérieure foncée protégerait les pilotes des rayons du soleil et une bande plus claire au niveau inférieur des verres leur permettait de garder un œil plus précis sur le tableau de bord de l'avion. La marque fait partie des objets typiques avec le jean, le Zippo et le chewing-gum qui débarquent en Europe avec les GI.
Et alors, en 1952, Ray-Ban va lancer la Wayfarer, un autre modèle mythique de la marque, et aujourd'hui toujours le plus vendu, qui va être popularisé par des acteurs et actrices d'Hollywood, comme par exemple la charmante Audrey Hepburn dans Diamant sur canapé. Hein, on la voit là, regarder d'un œil attendri la vitrine de chez Tiffany's, derrière ses lunettes de soleil. Et puis, bien sûr, il y a plein de célébrités du rock hein, qui vont également adopter cette fameuse lunette, bah, comme Bob Dylan, par exemple, Ray Charles aussi. Donc, au cinéma, évidemment, il y a les inoubliables Blues Brothers hein, avec leurs lunettes noires. Et puis, on va retrouver aussi Don Johnson, par exemple, dans Deux flics à Miami, ou le Macaulay Culkin aussi dans Maman, j'ai raté l'avion. Et puis, bien sûr, Jack Nicholson. Et tout un tas d'autres stars américaines. Alors, ces lunettes vont devenir ringardes en fait dans les années 90, donc il va être une grosse période de crise pour Ray-Ban, mais en fait, elles vont être remises au goût du jour après par Chloé Sevigny, qui va redorer le blason de la marque. Et donc, on va les retrouver encore aujourd'hui hein, sur le nez des mannequins et toutes les fashionitas ou modeuses dignes de ce nom. Alors, quant à la Ray-Ban Aviator, elle va être commercialisée à partir des années 1960, mais ses ventes ne vont pas vraiment décoller. Et c'est seulement en 1980, hein, grâce au chanteur américain Michael Jackson, que voilà, ses lunettes vont faire un saut en avant magistral. Alors en 86, la marque va lancer un nouveau modèle, le Clubmaster, qui est inspiré de
Malcolm X.
Donc le modèle va connaître un succès énorme hein, auprès du grand public et puis des célébrités aussi. Et au début des années 2000, en fait, Bausch & Lomb va vendre la marque au groupe italien Luxottica. Et en 2006, Ray-Ban va vendre pas moins de 14 millions de paires de lunettes. Alors en 2008, le Bovary Ballroom à New York va accueillir le concert Ray-Ban Remasters qui présente les lunettes de soleil Ray-Ban Clubmaster inspirées des modèles des années 50. Alors l'événement va réunir un nombre important de groupes de rock'n'roll, de célébrités et puis aussi de toute l'équipe de la série télévisée Gossip Girl. Voilà, je ne sais pas si vous connaissez cette série télé. Donc voilà, on en a fini avec les Ray-Ban et maintenant on va passer au chapeau. Et pour ça, bien, on va écouter une chanson de Sacha Distel qui s'appelle « Comme par hasard, mon beau chapeau ».
Je me suis payé un beau chapeau pour avoir l'air bien comme il faut. Quand je croise mes amis, ils en crèvent de jalousie en voyant mon beau chapeau. J'ai mis une plume à mon chapeau parce que ça fait plus rigolo. En me voyant coiffé ainsi, toutes les jolies filles s'écrient: oh là là, quel beau chapeau! Je passe mon temps, soir et matin, devant les glaces des magasins. Je me regarde, je me plais bien, et le roi n'est pas mon cousin. Je le mets de côté, mon beau chapeau, pour piloter ma petite auto. Comme ça n'est pas très pratique, j'ai fixé un élastique pour tenir mon beau chapeau. Je le mets tout droit, mon beau chapeau, lorsque j'appelle ma dactylo. Tout en dictant mon courrier, je peux quand même l'embrasser sans quitter mon beau chapeau. J'ai mis au fond de mon chapeau le nom de ma rue, le numéro. Comme ça, quand je prends une cuite et que j'oublie où j'habite, j'ai qu'à lire dans mon chapeau. Le seul malheur, c'est qu'une nuit, alors que j'étais un tout petit peu gris, on a changé à mon insu le nom et le numéro de ma rue. Moi, je me suis fié à mon chapeau et je suis rentré directo à l'adresse qui était marquée. C'est comme ça que j'ai réveillé le capitaine des pompiers. Faut un chapeau à cette chanson qui n'a ni rime ni raison. Je crois bien l'avoir trouvé, car pour l'avoir écouté, je vous tire mon chapeau.
Alors, exporté depuis plus de 150 ans, le chapeau Panama a fait le tour du monde sous cette appellation. Le Panama est un chapeau en fibre végétale d'origine équatorienne. Malgré son nom qui renvoie à Panama, il s'agit d'un chapeau masculin souple et léger, très en vogue vers 1900, porté par les ouvriers pour se protéger du soleil avant de devenir un symbole d'élégance décontracté, qui ne s'est jamais vraiment démodé et qui connaît un regain de jeunesse en ce début de 21e siècle. C'est un chapeau connu surtout dans sa forme à large bord, style Borsalino, qui se distingue par sa grande finesse. Il est traditionnellement soit de couleur ivoire garni d'un ruban marron ou noir, soit blanc garni d'un ruban noir. Il est entièrement réalisé en fibres naturelles et confectionné à la main à partir de feuilles d'une plante palmiforme, Carludovica palmata. Le Panama est une des composantes traditionnelles et séculaires des tenues vestimentaires d'un certain nombre de tribus du sud de l'Équateur. Certains Panamas de qualité supérieure peuvent exiger plus de 6 mois de fabrication, jusqu'à 10 mois de tissage. Il existe 3 façons de tisser les Panamas: Brisa, Cuenca et Monte Cristi. Chaque façon a son point de tissage particulier et sa position pour le confectionner. Se tisse assis à Cuenca, mais debout à Monte Cristi, penché sur son ouvrage.
Alors certains modèles de Panama, très fins et de haut de gamme, peuvent se plier et se rouler sans perdre leur forme. Donc pratique pour mettre dans la valise ou dans la poche. D'autres modèles d'aussi bonne facture reçoivent un apprêt qui les empêche d'être roulés, leur paille étant rigidifiée afin de garder la forme d'origine qui peut ainsi se conserver pendant plusieurs années. Le fait que ce chapeau ait été porté par de prestigieux chefs d'État et des stars de cinéma va contribuer bien sûr à ajouter au prestige et à la légende du chapeau de paille le plus célèbre qui soit. Alors, ce produit, hein, tissé entièrement à la main, comme l'a dit Sophie, va se trouver à tous les prix et selon la finesse de la paille. Et donc, certains modèles, comme le Panama Monte Cristi Extra Fino, eh bien, peut dépasser les 1000 euros hein, pour un chapeau de paille. C'est ma très chère paille. Hein. Alors, pour la première fois en 1855, à l'occasion de l'exposition universelle de Paris, le chapeau de paille est présenté en France avec une collection qui impressionne les Européens par la finesse de son tissu. Alors, pendant la construction du canal de Panama, des ouvriers du monde entier acquièrent les chapeaux de paille équatoriens pour se protéger du soleil. Et le seul chantier du canal a consommé plus de 100 000 de ces chapeaux. Les chapeaux équatoriens, donc, allaient faire le tour du monde à la suite de ça. On va les retrouver lors de la première révolution cubaine en 1885 et puis pendant la guerre des USA contre l'Espagne en 1898. Et puis Panama va servir donc de vitrine commerciale à l'Amérique du Sud. Le chapeau de paille est baptisé Panama, malgré donc ce qu'on a déjà dit tout à l'heure, hein, son origine équatorienne. Et en 1906, Theodore Roosevelt, donc alors président des États-Unis, va porter ce chapeau lors de sa visite au chantier du canal et contribue bien sûr à populariser le Panama Hat, autrement dit un chapeau de Panama, auparavant traditionnellement appelé Sombrero de Paratoquila. Bon, j'espère que j'ai un bon accent espagnol. Alors, les Parisiens vont adopter rapidement ce couvre-chef, considéré comme élégant. Et certains pensent que ça pourrait être à l'origine du surnom Paname qui est donné à Paris. Donc, ça serait à vérifier de sources plus sûres quand même. Alors, atteignant en 1977 le chiffre record de 5 millions, le chapeau était vendu dans plus de 120 pays. Depuis, le chapeau Panama a eu l'honneur de coiffer de nombreuses têtes célèbres du monde du spectacle ou de la politique, ainsi que d'innombrables anonymes, bien sûr. Jusqu'à aujourd'hui, où ses qualités telles que la légèreté et la praticité ne sont plus à démontrer. Pourtant, de nos jours, une véritable crise affecte cette industrie et les Panama, régis par un label de qualité, sont considérés comme produits de luxe à l'exportation vers des pays riches et sont donc taxés en conséquence. En revanche, les chapeaux de basse qualité produits en Colombie ou au Venezuela circulent librement et là sont pas chers du tout. Voilà. Donc on va en finir là avec le chapeau et je vous propose une autre petite chanson qui s'appelle tout simplement Le chapeau de Guy Béard.
C'est le plus beau jour de ma vie, j'ai retrouvé mon chapeau. Dernier étage de ma coquetterie, c'est le soulier de mon cerveau. Certains vont à la chasse, ça court bien. D'autres à la chasse aux félins, d'autres à la chasse aux humains. Moi je cherche mon galurin, mon chapeau des jours anciens. Sans lui, j'ai peur que ma tête s'enfuit et s'égare mes esprits. C'est le plus beau jour de ma vie, j'ai retrouvé mon chapeau. En son absence, j'ai connu la folie, l'amour et le rhume de cerveau. Les beaux travaillent de leurs yeux, les sots travaillent de leur langue, les gros travaillent de leurs pectoraux. Moi, c'est toujours du chapeau que j'effectue mes travaux. Je fais des pieds et des mains, oui, mais à dire vrai, je travaille du bonnet. C'est le plus beau jour de ma vie, j'ai retrouvé mon chapeau. J'ai dû fouiller tout le désert d'Arabie, car il est en poil de chameau. Lumière, soudain j'aperçois dans l'air mon chapeau flottant pépère. Entre deux paratonnerres d'un bond extraordinaire, je m'évade de la terre. Depuis, je me suis inscrit au parti pris et je cultive les radis.
Voilà. Donc, on va quitter les chapeaux, et surtout celui de Guy Béard. Et on va parler des pieds maintenant. Sophie, qu'est-ce que tu peux nous dire alors sur ces espadrilles?
Alors, symbole des beaux jours de vacances avec les cigales en bande-son, les espadrilles s'adaptent depuis plusieurs saisons à toutes les tendances. En dentelle ou imprimé camouflage chez Valentino, montante à lacets chez Chanel, en poil de poney ou imprimé léopard chez Céline, sa légèreté, sa simplicité, son petit prix et les matériaux naturels ont contribué à son succès.
Alors, c'est fait comment exactement une espadrille?
Alors, c'est une chaussure légère en toile avec une semelle en corde de chanvre ou de sparte tressée. Traditionnellement, dans plusieurs régions chaudes du monde, au Canada francophone, le terme espadrille est utilisé pour désigner des chaussures de sport. Rien à voir.
Voilà, t'as été trop vite là, tu vois.
Alors, ces sandales pyrénéennes sont très populaires sur les deux versants de la chaîne, de la Catalogne au Pays Basque, où elles ont supplanté la traditionnelle abarca. Dans les pays catalans, elles font partie des costumes féminins et masculins de... Qu'est-ce que...
Oh, non, vas-y, bah si, c'est ça.
Ah, je me suis dit, mince, je me suis trompée, parle d'autre chose.
Non, allez, vas-y, vas-y.
Donc, des costumes féminins et masculins de la paysannerie traditionnelle, et elles sont utilisées pour danser la sardane, les trabucaires et le bal de baston, bal avec bâton catalan, entre autres manifestations de la culture populaire.
Et d'ailleurs, jusqu'au milieu du XXe siècle, elle servait aussi à tous les moments de la vie, hein, aussi bien pour aller travailler dans les champs, que pour aller danser, que même pour marcher en montagne, alors que maintenant, on utilise des grosses chaussures de montagne là, qui tiennent bien les pieds, et, mais aussi pour jouer au rugby. Hein, voilà.
Ah ouais, il paraît. Donc, XVIIe siècle, au Pays valencien, il était interdit d'offrir, vendre, enseigner à faire ou même faire des espadrilles en présence de juifs arabes ou d'autres gens, entre guillemets, qui ne soient pas de notre nation. C'est vers 1860 que, venant d'Espagne, l'industrie de la sandale fut introduite à Saint-Laurent de Cerdan. Ce fut un nommé Francisco San qui, le premier, fabriqua mécaniquement à Barcelone le tissu pour sandales. Il enseigna à son neveu Joseph Sans, je pense, ses procédés pour développer cette industrie à Saint-Laurent, son village natal. L'invention par Joseph Sans d'une spécialité de tresse pour semelles à la main donna à la maison un essor inespéré. Parallèlement, de nombreux ateliers de fabrication d'espadrilles vont se développer à Saint-Laurent. Au début du XXe siècle, la commune de Saint-Laurent compte plus de 3000 habitants, dont une grande partie, plus de 1000 personnes, est employée dans la fabrication de toiles et d'espadrilles.
De toiles pour les espadrilles.
De toiles
en fait.
Pour les espadrilles, voilà. Saint-Laurent devient alors l'un des plus grands centres de production en France dans les années 50. Non, dans les années 50 commence une crise qui va s'échelonner sur une vingtaine d'années avec la reconversion dans un premier temps de l'espadrille en chaussures de fantaisie, puis la réduction du nombre d'emplois à la fermeture petit à petit des ateliers.
Et donc pendant la guerre d'Espagne d'ailleurs, hein, comme on manquait d'espadrilles dans les magasins, la plupart d'ailleurs des denrées et puis des aliments aussi, hein, donc les femmes catalanes fabriquaient elles-mêmes les espadrilles à la maison avec une semelle à base de caoutchouc réalisée à partir de la découpe de pneus de voiture, et le reste souvent était tissé au crochet. Hein, Et donc, dans les années 60, Yves Saint-Laurent va avoir l'idée d'une espadrille à talons et à rubans, hein, qu'Isabelle et Lorenzo Castagneur lui fabriquent, et là, qui vont donner toutes ces lettres de noblesse à la fameuse espadrille. Enfin, moi, je trouve que dans les espadrilles, ça donne des ampoules et on a mal aux pieds. Hein, mais je sais pas, ça, c'est un avis tout à fait personnel.
Faut les faire.
Et donc et surtout, faut pas les tremper. Voilà, si vous marchez dans une flaque d'eau au bord de la mer, après, elles sont foutues, vos espadrilles. Donc, de nos jours, la majeure partie des espadrilles vendues en France, eh bien, elles sont importées d'Inde ou du Bangladesh et sont maintenant les principaux producteurs de jute, en fait. Alors, les acteurs de l'âge d'or d'Hollywood, comme Humphrey Bogart, par exemple, et puis aussi, d'autre part, le couturier Saint-Laurent ou encore des artistes comme Picasso ou Dali, portaient des espadrilles chaque été. Et puis, sans oublier, évidemment, notre Gaston Lagaffe, notre héros national de bande dessinée, qui porte toujours des espadrilles bleues très usées. Voilà. Donc, une durée de vie de quelques mois à peine est la principale faiblesse quand même de l'espadrille. Et donc, beaucoup dans le sud-ouest la considèrent comme la tongue d'antan qu'on rachète chaque année avec plaisir au premier rayon de soleil. Et donc, avec quoi on va porter ces fameuses espadrilles alors ?
Eh bien, d'une couleur unie au rayé, l'espadrille se coordonne facilement avec un pantalon, un short ou un jean. Bien entendu, l'ourlet nonchalamment dévoile la chemise et cheville et met en valeur la forme affinée de la sandale. Mais attention, ne pas porter des espadrilles par temps de pluie, car, comme tu disais Mireille, au contact de l'eau, la corde se durcit et elles deviennent importables. Pour finir, un petit conseil pratique, pour les nettoyer, une petite brosse et du savon suffisent.
Bon, bah alors maintenant vous savez tout sur les espadrilles. Alors, on va vous passer une chanson là. Alors, on va pas vous la passer en entière d'ailleurs parce qu'elle dure plus de 7 minutes. Mais cette chanson s'appelle Pedro Navaja et elle est interprétée par le Panaméen Ruben Blades. Alors, c'est une chanson qui est très populaire en Amérique du Sud et qui allait parfaitement pour notre émission, puisqu'elle parle d'un homme, donc Pedro Navaja, qui porte un Panama, des lunettes de soleil et des espadrilles. Voilà.
Total look.
Donc, tout ce qu'il faut pour passer un bel été. Voilà. Donc, on vous laisse écouter Pedro Navaja.
Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar, con el tumbao que tienen los guapos al caminar, las manos siempre en los bolsillos de su gabán, pa' que no sepan en cuál de ellas lleva el puñal. Usa un sombrero de ala ancha de medio lado y zapatillas por si hay problemas salir volado. Lentes oscuros pa' que no sepan que está mirando, y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando. Como a tres cuadras de aquella esquina una mujer va recorriendo la acera entera por quinta vez, y en un zaguán entra y se da un trago para olvidar que el día está flojo y no hay clientes pa' trabajar. Un carro pasa muy despacito por la avenida, no tiene marcas pero todos saben que es policía. Pedro Navaja, las manos.
Donc voilà la dernière émission. Donc j'espère que ça aura pu vous intéresser, que vous aurez appris quelques petites choses, qu'on n'aura pas trop bafouillé au micro.
On a fait ce qu'on a pu pour vous aider.
Et que vous aurez quand même pris plaisir à écouter ces émissions. Donc bel été à tous.
À très bientôt. Sur Principe Actif, qui sait.
Voilà, c'est ça. Peut-être sur une autre émission alors. Voilà. Donc, au revoir.
Y a la carrera, pero sin ruido, cruza la calle. Y mientras tanto, en la otra acera va esa mujer. Refunfuñando, pues no hizo pesos con qué comer. Mientras camina.
Très
Dresscode 31, l'émission qui vous dévoile les origines des incontournables de votre dressing.
Jeans, perfecto, Ray-Ban, escarpins, bikini, salopette, robe de mariée, smoking.